RFI 7h à Paris, 5h en temps universel.
RFI Matin.
Avec nous pour l'actualité internationale, Marion Kazanov. Bonjour Marion.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À la une, cet accord économique signé entre l'Ukraine et les États-Unis.
Une nouvelle mouture de l'accord sur les minerais voulu par Donald Trump, mais plus avantageux pour Kiev. Alors que Moscou poursuit la russification des régions annexées en Ukraine. Reportage dans la région de Kherson dans ce journal. On sera aussi en Estonie, pays balte, qui craint une invasion russe imminente. Elle muscle sa défense et sa plaie aux États-Unis, qui réclament plus d'engagement venant des pays de l'OTAN. De nombreux appels à la désescalade à la frontière entre l'Inde et le Pakistan après l'attentat meurtrier au Cachemire indien la semaine dernière. En ce 1er mai, des millions de personnes manifestent aujourd'hui à travers le monde pour défendre les droits des travailleurs. Et puis on terminera en musique avec le nouvel album du Sénégalais Aloun Wad et son jazz qui voyage entre deux continents, africains et américains.
Après de longues négociations, Kiev et Washington signent un accord sur les minerais ukrainiens.
Ce vaste accord prévoit la création d'un fonds d'investissement dans la reconstruction du pays en guerre, avec un accès pour les Américains aux ressources naturelles de l'Ukraine, gaz, pétrole, minerais. Mais Kiev en garde toutefois la propriété et le contrôle. Les précédentes moutures de ce texte avaient été jugées trop défavorables pour les Ukrainiens. On y revient tout à l'heure dans le prochain journal, on sera à Washington.
Les Ukrainiens, Marion, qui déplorent une intensification des frappes russes.
À 8 jours de la courte trêve annoncée par Moscou, à Odessa, dans le sud, 2 personnes ont été tuées, 5 autres blessées cette nuit dans une frappe de drone. Et dans les régions contrôlées désormais par le Kremlin, la russification se poursuit. Illustration dans la région de Kherson, où s'est rendu Anissa El-Jabri.
Loi martiale, entrée et sortie du territoire contrôlé avec foule systématique des bagages, couvre-feu strict de 22h à 6h. La partie de la région de Kherson sous administration russe vit toujours à l'heure de la guerre. Ici, les armes parlent encore, mais pas que.
Jusqu'à aujourd'hui encore, nous menons une guerre idéologique. Et dans certains endroits, nous menons très activement une guerre de l'information, car il est très clair qu'il y a encore ici des opposants, des pro-ukrainiens.
Oksana Kalashnikova est chef du département de politique intérieure au sein de l'administration installée par la Russie. Elle est aussi la responsable du comité d'organisation de la célébration du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Cette année, nous attendons beaucoup de monde. L'année dernière, environ 15 000 personnes ont participé aux événements consacrés à la célébration du 9 mai. Ce chiffre ne concerne que la ville de Genichesk. Et cette année, je pense que nous allons largement battre ce record.
Le Kremlin s'attache depuis 2022 à faire un parallèle historique entre sa guerre en Ukraine et la Seconde Guerre mondiale. Adhérer à sa lecture est un des tests de loyauté exigés par le pouvoir. L'autre est l'acquisition de la citoyenneté russe. Oksana Kalashnikova vante les chiffres locaux en matière de passeportisation.
En avril de cette année, 16 000 passeports russes ont été délivrés au cours du seul premier trimestre. Je pense que nous approchons le chiffre de 300 000. Cela représente la quasi-totalité de la population adulte de la région de Kherson. Ce travail a été récemment intensifié et nous constatons une dynamique positive, car c'est impossible de refuser la citoyenneté d'un État qui fait tant pour vous.
Pour expliquer notamment cet afflux de demandes, l'administration locale met en avant ses efforts pour reconstruire routes et bâtiments. Les habitants des territoires annexés doivent prendre un passeport russe d'ici au 10 septembre prochain. Au-delà, ils seront considérés comme des migrants illégaux et devront partir. Anissa El-Jabri, Genichensk, RFI.
L'entrée dans ce territoire sous loi martiale pour la presse se fait via une accréditation spéciale. Les interviews dans ce reportage ont été réalisées en présence d'un membre du service de presse de l'administration installé par la Russie.
Les pays baltes craignent de partager bientôt le même sort que ces régions annexées.
Et mettent les bouchées doubles dans leur défense. L'Estonie, par exemple, va y consacrer au moins 5% de son PIB. Ça tombe bien. 5%, c'est ce que demandent les États-Unis à leurs alliés de l'OTAN, car Trump estime qu'ils dépensent trop pour l'Alliance transatlantique. Alors ces efforts estoniens plaisent à Washington. La coopération sécuritaire est au beau fixe, assure les deux pays. Exemple avec cette livraison de matériel américain hier sur une base militaire à l'ouest de Tallinn. Reportage Nicolas Feldman.
Les lance-roquettes sont exposés face aux caméras des modèles HIMARS tout juste livrés et achetés aux États-Unis sous Joe Biden. À la tribune, le représentant américain Matthew Wall l'assure. Donald Trump, lui aussi, se tient aux côtés de l'Estonie.
Cette livraison d'aujourd'hui n'est que le début. Le président Trump met tout en œuvre pour maintenir une industrie de défense dynamique aux États-Unis. Mais pour cela, il nous faut un réseau de partenaires solides, comme ici. L'Estonie prouve une nouvelle fois qu'il est un allié sérieux et que c'est un allié qui investit dans sa propre défense afin de rendre l'OTAN plus forte.
Car l'Estonie prévoit de dépenser plus 3 milliards d'euros supplémentaires ces 4 prochaines années, Anno Pevkur, ministre de la Défense.
Nous allons consacrer plus de 5% de notre PIB aux dépenses de défense. C'est désormais notre principal objectif parce que l'on a tiré les leçons de ce qui s'est passé en Ukraine. On doit le faire car la Russie est toujours très hostile et on peut aussi par la même occasion respecter nos engagements vis-à-vis de l'OTAN.
Ici, on attend beaucoup du prochain sommet de l'OTAN fin juin justement pour clarifier la relation de Donald Trump avec l'Alliance Atlantique. Nicolas Feldman, Tallinn, RFI.
En Syrie, les nouvelles autorités de Damas déploient des forces de sécurité pour ramener le calme dans un quartier druze près de la capitale. Quartier secoué par des violences confessionnelles déclenchées dans la nuit de lundi à mardi et qui ont fait 22 morts. Israël est intervenu hier, disant soutenir la minorité druze en menant des frappes aériennes. Israël qui déploie son armée en renfort pour aider les pompiers à combattre d'importants incendies. Ces feux se rapprochent de Jérusalem. Plusieurs villes déjà ont été évacuées. L'autoroute entre Jérusalem et Tel Aviv a été fermée. On est en direct de Jérusalem dans le journal de 6h, temps universel.
Le Pakistan craint une attaque imminente de l'Inde.
L'Inde accuse son voisin d'être responsable de l'attentat au Cachemire indien qui a fait 26 morts il y a une semaine. Le premier ministre indien Narendra Modi a donné son feu vert à l'armée pour intervenir comme elle le souhaite. Et comme Bastin, l'escalade se poursuit à la frontière.
Ce mercredi, des mouvements de troupes de l'armée indienne ont été signalés le long de la frontière, disputés avec le Pakistan dans le Cachemire, là où des échanges de tirs ont lieu depuis plusieurs jours. La perspective d'une attaque de l'Inde s'est précisée avec d'autres réunions stratégiques. De son côté, le Pakistan affirme que l'Inde pourrait entrer en action aujourd'hui même. S'agit-il de traquer les terroristes, d'intervenir à la frontière ou tout simplement de punir le Pakistan? Ajay Shukla, ancien colonel et expert militaire indien.
Le Pakistan a laissé la situation dégénérer jusqu'à une confrontation frontale avec l'Inde, à la fois sur le plan diplomatique et frontalier. Tout le monde est à cran et il est trop tard pour des excuses. L'opération est soigneusement planifiée dans les centres opérationnels de l'armée, mais ne sera pas partagée publiquement pour tabler sur l'effet de surprise. Ce qui est important pour l'Inde, c'est de se fixer des objectifs modestes mais réalisables.
Si le risque d'escalade entre les deux puissances nucléaires est dans tous les esprits, l'ensemble des partis politiques indiens soutiennent le gouvernement. Le Pakistan est un ennemi juré et les attentats du 22 avril dans le Cachemire ont soudé l'opinion derrière l'idée d'une riposte. Kombastin, Bangalore, RFI.
Et le secrétaire d'État américain Marco Rubio a appelé hier soir le Pakistan à condamner l'attentat au Cachemire indien et à coopérer dans l'enquête pour en retrouver les auteurs.
RFI 6h08 à Kinshasa, en RDC, les autorités réclament la levée de l'immunité de Joseph Kabila.
Requête déposée hier au Sénat contre l'ancien président. Sénateur à vie, il est accusé d'avoir pris part à la création de l'AFC, la branche politique du M23 soutenue par le Rwanda et qui contrôle une partie des Kivus dans l'est de la RDC, ce qu'il dément. Ses proches parle d'un acharnement.
En Afrique du Sud, la quête de justice pour les familles touchées par les crimes de l'apartheid.
Le président Cyril Ramaphosa a annoncé hier la mise en place d'une commission pour enquêter sur le manque de justice autour de ces crimes. Beaucoup ont été signalés par une première commission appelée Vérité et Réconciliation, mais peu ont été jugés. Et aujourd'hui, cela devrait pouvoir changer. À Johannesburg, Claire Bargelès.
En 1998, la commission Vérité et Réconciliation remettait ses conclusions au gouvernement sud-africain et recommandait des poursuites pour près de 300 cas. Mais 27 ans plus tard, seule une poignée de dossiers ont conduit à des procès. Beaucoup de suspects ne sont désormais plus en vie et des familles de victimes sont toujours en quête de paix et de vérité. C'est pourquoi plusieurs de ces familles ont décidé de porter l'affaire devant les tribunaux en début d'année afin de réclamer des explications et des dommages d'intérêt. Cyril Ramaphosa les a donc entendus et au travers de cette future commission d'enquête, il souhaite que la lumière soit faite sur les soupçons d'interférence politique. Plusieurs voix, et notamment celle d'un ancien cadre du parquet, ont dénoncé par le passé des blocages volontaires sous la présidence de Thabo Mbeki afin que des dossiers soient enterrés. Le gouvernement doit désormais annoncer dans quel délai cette commission sera mise en place et qui sera nommé à sa tête. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
En Corée du Sud, le parquet vient d'inculper l'ex-président Yoon Suk-yeol pour abus de pouvoir. Inculpation après sa tentative d'imposer la loi martiale en décembre. Il a déjà été inculpé en janvier pour rébellion.
Des millions de manifestants à travers le monde aujourd'hui pour défendre les droits des travailleurs et des travailleuses.
Les traditionnels cortèges du 1er mai en France, entre 100 et 150 000 personnes sont attendues dans les rues. Les syndicats ont plusieurs inquiétudes, notamment les 40 milliards d'euros d'économies que le gouvernement veut trouver dans le budget 2026. Mais leurs revendications, leurs priorités diffèrent. Ils défileront donc en ordre dispersé. Myriam Berber.
La CGT, Force ouvrière solidaire et la FSU, premier syndicat de l'éducation, ainsi que des organisations de jeunesse, dont l'UNEF, l'Union étudiante, ou le MNL, le Mouvement national lycéen, ont lancé un appel commun pour défendre une hausse des salaires et des pensions de retraite, ou bien encore la paix dans le monde. De son côté, la CFDT appelle à rejoindre les cortèges pour revendiquer une Europe plus protectrice pour les travailleurs. Aux côtés des organisations syndicales, les quatre forces de gauche qui composent le nouveau Front populaire défileront également dans les rues. Pas de mot d'ordre unique, mais tous les syndicats s'opposent à un assouplissement du Code du travail selon lequel le 1er mai est un jour férié et chômé. Des sénateurs et le gouvernement réclament en effet que certains commerces comme les boulangeries et les magasins de fleurs, déjà autorisés à ouvrir le dimanche, puissent aussi le faire le 1er mai. Cette revendication sera au cœur des cortèges, tout comme le refus des 40 milliards d'économies budgétaires prévues sur les dépenses publiques, des coupes qui devraient viser les collectivités locales et les services publics.
Myriam Berber.
Et on termine en musique, Marion, avec un hommage aux racines africaines du jazz.
Le jazzman sénégalais Alou Nouad sort son sixième album, New African Orleans. Le bassiste et compositeur mêle donc influence africaine et américaine avec quelques reprises iconiques. Un aperçu avec Olivier Roger.
À l'origine était l'Afrique, ses captifs emportant dans leur mémoire le secret des rythmes qui donnent la force de vivre. Puis vint le retour, ce jazz afro-américain qui irrigue la musique d'un Fela Kuti ou d'un Abdoulaye Ibrahim. Alou Nouad a voulu souligner ce va-et-vient d'influence.
Je pense que ce côté organique que nous retrouvons dans la musique africaine est juste le socle de ce qui est devenu aujourd'hui le jazz.
New African Orleans est à la fois un hommage et une quête de correspondance entre deux zones d'influence de la musique mondiale, l'Afrique et l'Amérique. Alou Nouad s'ingénie à dénouer les nœuds de la pelote. Pour cela, 4 des 11 pistes de l'album sont des réinterprétations de standards, dont cette reprise de Voodoo Child de Jimi Hendrix.
Ce sont des morceaux qui portent des messages qui sont très liés à l'Afrique, comme le Voodoo Child. Donc lorsqu'on parle du voodoo, on pense à l'Afrique de l'Ouest, on pense au Bénin, on pense au Togo. Tout ça, c'est voodoo.
La magie qui entoure cet album tient aussi à la qualité des instrumentistes réunis par Alou Nouad, lui-même l'un des plus grands bassistes de la planète jazz.
African Orleans, le nouvel album d'Alou Nouad.
Et cet album, eh bien, c'est notre show musical aujourd'hui. Olivier Roger viendra nous le présenter en studio juste avant la fin de cette matinée. Merci Marion Cazeneuve. Vous revenez à 9h pour le grand journal d'RFI Matin. À tout à l'heure. RFI 1er mai 2025, la journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs. On va y revenir très largement ce matin avant des mobilisations prévues aujourd'hui en France, mais aussi dans plusieurs pays. Ce matin, on va aussi parler du Japon, où les salariés, les jeunes notamment, réclament de moins travailler au profit de leur vie privée. On peut les comprendre. Le récit de notre correspondant à 9h15 tout à l'heure. Cette journée, les droits des travailleurs en Europe, on en parle avec notre invité international ce matin, Elena Krasta. Arnaud Pontus viendra nous en parler. Elle est conseillère principale pour le commerce au sein de la Confédération européenne des syndicats. Autre invité ce matin pour parler des récentes évolutions dans la politique malienne. Mohamed Amara, le sociologue malien, répond aux questions de Christophe Boisbouvier dans une demi-heure. Également au programme, cet accord économique sur les minerais ukrainiens annoncé hier est destiné à financer la reconstruction du pays. On en parle aussi de ces tensions de plus en plus vives entre l'Inde et le Pakistan après les violences survenues dans la région du Cachemire, l'inquiétude très forte à Islamabad alors qu'une attaque de l'Inde semble imminente. Témoignage à suivre ce matin. L'actualité, c'est aussi ces très violents incendies à Jérusalem. Nous y serons dans le journal de 8h. RFI au programme, comme chaque jour, chronique, invité, reportage, le sport. On va aussi parler foot ce matin, la presse. Bienvenue si vous nous rejoignez. Mais d'abord, direction Singapour pour votre rendez-vous, la Une en Asie. Singapour, où ce samedi, on vote pour des élections législatives. 97 députés doivent être élus dans 33 circonscriptions. Et cela après une campagne éclair, 9 jours seulement. Bonjour Yelena Tomic.
Bonjour Andréane.
Alors, comment se profilent ces législatives et quelles sont les forces en présence?
Eh bien, les élections à Singapour sont souvent décrites comme ennuyeuses, Andréane. Vous allez très vite comprendre pourquoi. La scène politique singapourienne est dominée depuis trois quarts de siècle par le même parti, le Parti d'Action Populaire. Ce parti a remporté à une très large majorité toutes les élections depuis 1959, en s'assurant au minimum une majorité des deux tiers au Parlement. La cité-État est également très stable au niveau exécutif. Elle n'a connu que quatre premiers ministres en 75 ans. En face, vous avez 8 à 10 partis d'opposition. La plupart sont de petites formations sans grands moyens ni élus. Le seul qui se démarque est le Parti des Travailleurs, qui a réussi aux dernières élections en 2020 à faire élire, et c'est sans précédent, 10 députés sur un parlement qui en comptait 93.
Et quelles sont, Yelena, les chances d'une nouvelle percée de l'opposition ?
Eh bien, selon les observateurs, les chances sont maigres. Le Parti des Travailleurs a choisi de ne présenter que 26 candidats pour 97 sièges, ce qui exclut d'emblée toute possibilité qu'il remporte ces élections. De l'autre côté, l'actuel Premier ministre Lawrence Wong et son parti, le PAP, ont donc toutes les cartes en main pour se maintenir au pouvoir.
Dans ces élections, a priori sans suspense, quels sont les thèmes qui ont dominé la campagne ?
Alors, même si Singapour est considéré comme un pays stable et prospère, il a beaucoup été question du coût de la vie. Les prix du logement et de la nourriture ont beaucoup augmenté. Le gouvernement a dégagé des fonds pour les retraités et les tranches les plus défavorisées en augmentant la TVA de 7 à 9% sans imposer les plus riches. L'opposition a réclamé quant à elle des mesures sociales plus étendues reposant sur une imposition plus large. Mais comme ailleurs dans le monde, Andréane, le sujet dominant était celui des taxes douanières de Donald Trump, des taxes considérées comme très offensives par Singapour. Écoutons l'historien Jean-Louis Margolin, spécialiste de Singapour.
Singapour doit sa prospérité à son statut permanent de port franc, de grande plateforme commerciale à l'échelle asiatique et mondiale. Depuis deux siècles, est un pays libre de tout droit de douane à l'entrée. Et donc, en ce sens, l'imposition de 10%, taux qui peut monter jusqu'à 25% dans le cas des exportations de produits métallurgiques et automobiles, évidemment, c'est considéré comme un geste tout à fait inamical. Un petit pays toujours loyal et proche politiquement des États-Unis, et évidemment comme une menace, certes pas existentielle, mais enfin une menace assez sérieuse pour certaines des industries singapouriennes qui donc risquent de se retrouver en difficulté.
Et en dehors de ces inquiétudes, Singapour demeure un système plutôt bien géré et en bonne santé économique. Et comme la cité-État n'a jamais connu de crise politique ni économique majeure, eh bien cela garantit au Parti d'Action Populaire de se maintenir au pouvoir.
Et on suivra ça bien sûr sur RFI. Yelena Tomic pour la Une en Asie sur notre antenne. RFI à vos côtés en ce 1er mai 2025, journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs et des travailleuses. Dans une minute d'ailleurs, on va parler de ce qui est pourtant un droit, mais qui est trop souvent perçu comme une contrainte pour les femmes dans le monde du travail, le congé maternité. Et c'est notamment le cas dans certaines professions comme les avocats. Vous allez l'entendre, reportage à suivre. Bonjour Arnaud Pontus.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Cette journée internationale des droits des travailleurs, c'est toujours l'occasion bien sûr d'évoquer les droits à venir, les nouvelles pratiques et les dérives repérées dans le monde du travail. Votre invitée ce matin est la conseillère principale pour le commerce au sein de la Confédération européenne des syndicats.
Oui, elle s'appelle Elena Crasta, elle est italienne et on va lui demander que valent les droits des travailleurs à l'heure de la guerre commerciale mondiale engagée par Donald Trump. Les syndicats européens craignent de perdre gros dans cette bataille avec des secteurs fragilisés, des emplois qui vont forcément être perdus. Est-on Macron à la veille de nouvelles vagues de licenciements. Comment riposter aux menaces américaines de nouveaux droits de douane? L'Europe a-t-elle aussi les moyens de limiter les possibles dégâts sociaux? Les Européens doivent-ils multiplier les traités de libre-échange avec d'autres régions? Et dans quelles conditions? Que faire face aux difficultés de l'industrie européenne? Beaucoup de questions pour Elena Krasta de la Confédération européenne des syndicats. C'est cette confédération qui regroupe les syndicats nationaux du continent issus de plus de 40 pays.
À tout à l'heure Arnaud Pontus, 6h20 en universel pour cet entretien. Et on parle aussi ce matin d'intelligence artificielle à l'occasion de ce 1er mai. L'IA qui s'invite de plus en plus dans le monde du travail. Rendez-vous avec Stéphane Geneste dans Aujourd'hui l'économie tout à l'heure. Au travail, le congé maternité est un droit légitime pour nombre de femmes, mais trop souvent associé à une contrainte, et c'est notamment le cas dans les professions libérales en France. Dans certains secteurs, le congé maternité est trop souvent synonyme de mise au placard, de licenciement ou encore de perte de clients. Résultat, on compte que 17% des avocates ne prendraient pas leur congé maternité contre 10% dans les autres professions. Alors, des syndicats d'avocats se battent pour faire respecter les droits des futures mères, et notamment leur congé maternité. Lou Ecal en a interrogé.
Dans la 13e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, l'atmosphère est tendue. Une vingtaine d'avocats et avocates, robes noires sur le dos, sont venus soutenir Lola Delage. Cette avocate demande un renvoi d'audience, c'est-à-dire le report du procès sur lequel elle doit intervenir, car elle est enceinte. Manon est l'une de ses amies.
Ma consoeur, pour des raisons médicales, elle a dû commencer son congé plus tôt que prévu. Elle en a visé dès que possible le président de la chambre correctionnelle concernée qui lui a indiqué qu'il fallait qu'elle se prépare à ce que cette demande de renvoi soit rejetée et que son client soit jugé sans elle.
Lola Delage est absente depuis le déclenchement de son arrêt maternité. Alors c'est sa consœur, Sophie Allard, qui plaide pour elle. L'audience est mouvementée. Le représentant du parquet s'agace. Selon lui, Lola Delage a gardé le dossier malgré son arrêt pour continuer à toucher de l'argent. Les avocats se lèvent, indignés. Le report de l'audience est finalement acceptée, mais pas d'explosion de joie chez les avocats. À la sortie de l'audience, Sophie Allard semble lessivée.
C'est la pire audience de ma vie. En fait, aujourd'hui, en 2025, on est en train de nous dire qu'un arrêt maternité, et encore plus pathologique, ne justifie pas un renvoi. J'ai pas 10 ans de barre, j'ai pas 20 ans de barre, mais de mon expérience, je n'ai jamais vu un renvoi refusé lorsqu'un confrère fait état d'une problématique médicale.
Lola Delage n'était pas présente, mais ses collègues lui ont raconté l'audience. Elle est sous le choc.
À la base, c'est peut-être un peu naïf de ma part, j'ai pas imaginé que ça allait poser de difficultés. Je comprends pas que ce soit pas un motif légitime de renvoi et qu'on doive se justifier et venir expliquer des choses d'ordre que je considère qui sont d'ordre privé à une audience. Non, c'est franchement très, très regrettable.
Le cas de Lola Delage n'est pas une première. Il y a un an, une avocate a perdu les os et fait une crise d'épilepsie en pleine audience au tribunal de Paris. La raison, le renvoi de son audience avait été refusé. Pour Chloé, avocate, il y a un problème de sexisme au sein de l'institution et faire partie d'une profession libérale n'arrange rien.
Il faut savoir que très peu d'avocates sont salariés. Quand on est libéral, on n'est pas protégé par le droit du travail et donc il y a ce risque d'être licencié du jour au lendemain. Il y a aussi le sujet de comment on garde ses clients. Si on est arrêté pendant 4 mois, on a besoin de mettre en place un certain nombre de mesures. Et une mesure simple, c'est déjà de dire, quand il y a un dossier qui tombe pendant cette période qui est quand même courte, qui est celle du congé maternité, le renvoi, il doit être absolument de principe, sauf situation exceptionnelle.
Cette situation la touche personnellement. Chloé est enceinte de quelques mois.
Un reportage de Lou Ecal sur RFI.
RFI Matin.
Le sexisme et plus précisément les violences sexistes, un fléau dans nos sociétés dû à de nombreux facteurs. Et parmi ces facteurs, eh bien, on trouve le réchauffement climatique. Bonjour Juliette Pietraszewski.
Bonjour Andréane.
En direct pour notre question d'environnement, Juliette. C'est un rapport de l'initiative Spotlight des Nations Unies qui nous en parle et qui révèle que le changement climatique donc intensifie certaines tensions sociales et économiques qui alimentent, elles, la hausse des violences contre les femmes.
Oui, chaque augmentation
l'augmentation de 1 degré de la température mondiale est associée à une augmentation de 4,7% des violences conjugales. D'ici la fin du siècle, 40 millions de femmes et de filles supplémentaires risquent d'être victimes de ces violences.
Et comment comprendre, Juliette, le lien entre dérèglement climatique et violences faites aux femmes ?
Alors d'abord, on sait que les événements climatiques extrêmes peuvent mener à plusieurs choses. Une instabilité économique, des infrastructures endommagées, une insécurité alimentaire, une pénurie d'eau, une rupture des liens sociaux, une aggravation des conflits. Ensuite, toutes ces conséquences issues des événements climatiques se produisent dans des sociétés déjà touchées par des inégalités. Résultat, eh bien, ces impacts renforcent les violences faites aux femmes et aux filles. Par le passé, une étude a par exemple révélé que les féminicides ont augmenté de 28% pendant les vagues de chaleur. Après des déplacements liés à des catastrophes naturelles ou à des phénomènes plus longs comme la désertification, les chercheurs ont aussi constaté une augmentation de l'exploitation des êtres humains et des abus sexuels. Enfin, la pénurie de ressources naturelles entraîne aussi des conflits violents et des déplacements de population où le viol et les violences sexuelles sont utilisés comme une stratégie d'intimidation et de contrôle.
Et qui sont les femmes les plus vulnérables face à ces violences exacerbées par le réchauffement climatique ?
Eh bien, selon l'ONU, celles vivant en dessous du seuil de pauvreté, comme des petites agricultrices, sont très vulnérables. Les femmes autochtones, handicapées, âgées ou appartenant à la communauté LGBT+, sont également touchées. Le rapport de l'ONU mentionne aussi une augmentation des menaces contre les femmes activistes qui défendent les droits humains environnementaux. Erin Kenny est coordinatrice mondiale de l'initiative Spotlight des Nations Unies pour mettre fin à la violence contre les femmes et les filles.
Ce sont des femmes qui se retrouvent en première ligne des conséquences du changement climatique et ce sont également les plus grandes défenseurs des terres touchées. Et quand vous êtes en première ligne pour toutes sortes d'actions sociales réclamant la justice, y compris les actions de défense du climat, eh bien vous vous mettez automatiquement en position de faire face à une réaction négative et ça inclut les violences sexistes.
Et quelles sont, Juliette, les solutions pour contrer ces violences qui augmentent donc avec la crise climatique ?
Les préconisations de l'ONU, c'est notamment d'encourager des politiques inclusives à tous les niveaux, sachant que seulement 0,04% de l'aide au développement liée au climat est principalement axée sur l'égalité des genres. Le Vanuatu, par exemple, est un archipel très exposé au dérèglement climatique. En mars 2023, deux cyclones de catégorie 4 se sont produits en moins de 3 jours. Eh bien, l'initiative Spotlight a travaillé avec le ministère du changement climatique, explique Erin Kenny.
Il y a désormais un plan d'attaque lorsqu'une crise apparaît. Le Vanuatu est un petit état insulaire qui fait régulièrement face à des désastres climatiques. Donc avoir ce programme veut dire que vous êtes prêt quand un épisode extrême se produit, avec un plan pour répondre aux besoins spécifiques des femmes et des filles qui peuvent subir des violences de genre.
Le but, c'est veiller à ce que les interventions en cas de catastrophe prennent en compte des services de lutte contre les violences de genre, grâce notamment à des cliniques mobiles dans les zones sinistrées, Andréane.
Merci Juliette Pietraszewski, c'était la question d'environnement sur RFI. Dans 3 minutes, l'information africaine, mais d'abord un petit peu de musique. C'est sur notre playlist du mois de mai. Elle vient de se rendre disponible puisque nous sommes le 1er mai. Elle est accessible sur toutes les plateformes d'écoute. Wake Up Africa, c'est le titre du jour par Guédu et Blé Embolé.
That's right, man. Lazy in the house, man. You know what time it is. I'm gonna tell him like it is, brother. The time must come to wake up Africa. The time is here, brother. The time must come to wake up Africa. The younger generation. The time must come to wake up Africa. They know that it's time. Time has come to wake up Africa. Now listen here, bro. African leaders, fuck up. Politicians, they fuck up. Judiciary, fuck up. Religious leaders, fuck up. Council of States, fuck up. House of Chiefs, fuck up. Africa, it's a crime scene. Oh, brother. Fuck up. Our culture, fuck up. Our language, fuck up. The food we eat, fuck up. Transportation, fuck up. Our roads, fuck up. This happens when educated fools are in control. Now the spirit is with the younger generation, and they're gonna chase all the crazy bald heads out of town. Now listen, people, university degrees, fuck up. PhDs, fuck up. Financial institutions, fuck up. Police service, fuck up. Military, fuck up.
Le titre Wake Up Africa par Guédou et Blé Embolé sur RFI. C'est sur notre playlist à retrouver en ligne et sur notre site RFI.fr. Vous restez dans 30 secondes le journal.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
la sexologue de l'émission Noël Caillard-Cy répond à vos questions en direct.
Demain,
questions de femmes, questions de parents, prévenir et traiter l'asthme.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10.